Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Vous savez quoi ? Je pense que si on ajoute le budget cumulé des 4 jeux dont nous allons parler, je pense que ça équivaut à un jour de développement de Red Dead Redemption 2.
Ça donne facile. Une idée.
Le retour des jeux indés dans Silence on joue après l'émission consacrée à Red Dead Redemption 2. On va parler de Wandersong, de Return of the Obra Dinn, Lethal League Blaze et 7 Billion Humans. 4 jeux, gros programme donc, et pour m'accompagner dans cette mission périlleuse, j'accueille 2 de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, des croissants, bonjour Corentin.
Hey Yawan.
Et Franz Durupt, ça fait plaisir de te revoir, bonjour
ça
Franz.
Ça fait plaisir aussi,
De Libé, hein, n'oublions pas. On va commencer par toi, Corentin, et tu vas nous parler de Blizzard.
Oui, parce qu'il y a eu le BlizzCon ce Mais week-end. Oui. Et alors, oh là là,
ça a râlé, je crois, non?
Ça s'est pas bien passé du tout. Bon, déjà, c'était un peu chichant d'annonce. Il y a quand même eu, il me semble, un remake de Warcraft qui est en préparation, mais surtout ce qui a fait
jaser. Du film ?
Non.
Non, pardon.
Enfin, c'est le 3, non, qui vont refaire Warcraft. Il me semble, j'ai pas trop suivi cette affaire-là. J'ai suivi l'affaire Diablo.
Bah oui.
Aïe. Donc, ils ont annoncé pendant la BlizzCon un nouveau Diablo. Donc, pour l'instant, bonne nouvelle. Les gens, après tout, attendaient une annonce Diablo. Oh, allez, rêvons un peu, Diablo 4, ça fait quand même plusieurs années, quoi. 2011, Diablo 2, 3, un truc comme ça.
Ou alors, ça date, hein.
Diablo 2 Remaster, pourquoi pas, le Diablo peut-être un peu favori de la communauté. Eh ben non, c'est Diablo Immortal. Pourquoi pas, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Diablo Immortal, c'est un jeu mobile. Ah, très bien, un jeu mobile sur PC aussi. Non, sur mobile, uniquement sur mobile. Oui, alors non, on va pas être d'accord. En tout cas, la communauté n'est pas d'accord et l'a fait savoir à la fois sur les réseaux sociaux.
Et c'est mode free-to-play.
Ouais, ça sent un petit peu la loot box et voilà, ce genre de choses. On n'en sait rien en vrai. Il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de détails. On sait juste que c'est en collaboration avec une boîte chinoise qui va aider au développement du jeu. Ce qui n'est pas bon signe d'un point de vue modèle économique, on va dire, hein, puisque ça va être certainement, c'est pour un marché mobile, ça va vraisemblablement se tourner vers des micro-paiements et ce genre de choses. Donc il y a eu un énorme backlash à la fois sur les réseaux sociaux, des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. Le jeu ressemble tout à fait à un Diablo 3 classique. Hein. Certains même rigolaient en disant wow, on dirait le reskin d'un jeu qui pompait déjà Diablo 3, donc ça n'a pas vraiment convaincu. Mais surtout pendant la conférence même, des gens qui posaient des questions au pauvre présentateur qui était là, qui est une figure de Blizzard, qui est là, qui présentait les annonces, et les fans qui se levaient pour prendre la parole. Bonjour, est-ce que c'est une blague parce qu'elle est pas drôle et tout? Enfin voilà, c'était vraiment, ça s'est pas bien passé. Ils ont même pas bien répondu en disant oui, vous avez tous un smartphone tout de même, bah alors pourquoi vous râlez? Bref, Jason Schreier qui est journaliste chez Kotaku a révélé ensuite que en fait ils étaient à deux doigts de révéler Diablo 4 ce jour-là, mais qu'au dernier moment ils ont décidé de ne pas le faire parce que la direction en fait du développement avait trop changé et que ça n'allait plus être vraiment représentatif de ce qu'allait être Diablo 4, et peut-être qu'ils s'en sont un peu mordus les doigts. Je pense quand même, alors à titre personnel, je pense quand même que la communauté exagère un petit peu, que c'est pas si grave, enfin ils annoncent un jeu au final, c'est bon, voilà. Mais que Blizzard aussi n'a pas eu le nez creux du tout en termes de communication. C'est vrai que c'est pas le genre d'annonce à faire devant ta base hardcore de fans qui attend autre chose, clairement. Donc il fallait s'attendre à ne pas avoir de bonnes réactions après ça. Donc on va voir comment ils vont réagir. En tout cas, ça a été l'occasion de confirmer que Diablo 4 est bien en développement, puisqu'ils l'ont dit un petit peu pour essayer de rattraper le coup. Mais ouais, il y a eu un énorme backlash et on peut dire que cette BlizzCon aura été un petit peu entachée par ce petit épisode.
Ouais, on va pas non plus donner trop d'importance aux réactions quelque peu énervées des fans hardcore sur les réseaux sociaux et voir voire très conservatrice et voire gamer guetteuse et ce genre de choses. Hein. Donc c'est pas. Mais
là, je pense que c'est plutôt la réaction d'un public peut-être un peu PC dans son cœur qui voit lui échapper quelque chose qu'il considère que c'était un peu son doudou. C'est malheureusement humain, mais il faut un peu lutter contre ça aussi. Et après, moi j'ai un peu ressenti ça aussi à l'époque de Diablo 3 où j'ai senti que la licence Diablo, après le 2. S'émancipait de quelque chose que j'aimais bien et qui était l'aspect un peu gothique, sanglant, sombre, et se rapprochait plus d'une DA, d'une ambiance un peu plus à la Warcraft et tout ça. Et c'est vrai que je comprends un petit peu ces gens qui râlent.
Non, mais bien sûr, mais après, on peut avoir un avis, on peut penser qu'un Diablo free-to-play avec des lootbox, c'est une idée très, très pénible. Et voilà, après, c'est l'intensité ouais. des réactions. Après, Blizzard va survivre à cette petite polémique.
Je pense aussi
on s'inquiète pas trop pour eux.
Ils ont peut-être un peu peur aussi en voyant ce que Electronic Arts, à l'époque, avait pu faire des licences comme Dungeon Keeper, ce genre de choses. Ils ont peur qu'Activision fasse un peu la même chose avec des licences qui appartiennent à Blizzard. Blizzard qui a toujours eu cette image un peu de sanctuaire au sein d'Activision. Activision qui a pas toujours eu des pratiques commerciales tout à fait sympathiques auprès des consommateurs et qui, voilà, Blizzard, on estimait que... Ils ne vont pas toucher à Blizzard parce que c'est
une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique, Blizzard. Et puis, on a vu jusqu'à Overwatch où ils ne se sont vraiment pas gaufrés très, très souvent. Hein. Enfin,
non, bien sûr.
Il y a eu quelques échecs Blizzard, mais c'est
il y a très longtemps déjà.
Oui, c'était pas récent. Il y avait le StarCraft console, je crois, qui n'est jamais sorti.
Bon, c'est pas un échec, puisqu'il y a eu des tentatives. Donc, voilà. Il y a eu un Superman il y a très longtemps, mais c'est un vieux.
Mais c'est vrai que là, voir une licence majeure. Co-développé en plus, je pense qu'au niveau symbolique, ça heurte un petit peu parce que c'est un peu.
On touche à un doudou. Ouais. Sinon, moi j'avais une news. Oui. Parce que il fallait remettre un petit peu de bonne humeur et de gaieté.
Alors, podcast sinistre, voilà. Silence en jeu.
En fait, il y a un drone en forme de Spyro le Dragon qui crache du feu qui est en train de traverser les États-Unis pour livrer un jeu Spyro le Dragon à Snoop Dogg. Et je trouvais ça quand même assez cool. Ce que je trouve, c'est un beau message d'espoir pour quiconque.
pour qui
aime les belles histoires. Donc on a ce drone là, donc Snoop Dogg a dit moi je veux mon jeu pour mon neveu. Activision Blizzard, encore eux, on dit oui, pas de problème, on arrive. Et donc il y a un drone Spyro le Dragon là qui traverse et qui met le feu à des épouvantails. Moi je trouve ça sympa dans l'idée, qui fait la course avec des aéroglisseurs et qui regarde des gens se faire tatouer des Spyro le Dragon sur le bras.
Je comprends rien à cette news.
Autant de forcing sur une licence. Voilà, comme Spyro le Dragon,
majeur,
formidable.
Une licence majeure.
Voilà. Et
le jour où ils vont annoncer un Spyro mobile free-to-play, ça va pas ça mal se passer.
Donc, toute la presse de vidéo, en tout cas, retient ce saut pour savoir si le jeu arrivera carbonisé ou non. Moi, j'adore cette histoire.
Voilà. D'accord. J'ai rien compris. France, évidemment, deux semaines après la sortie du jeu, c'est le moment des premiers bilans de Red Dead Redemption 2.
Oui, Take-Two qui a donc annoncé des chiffres de distribution de Red Dead Redemption 2, donc 17 millions d'exemples en deux semaines, ce qui est pas mal du tout, on va dire. Voilà. Donc le jeu démarre très bien et par la même occasion, ils en ont profité aussi pour annoncer que GTA V avait pour de bon passé la barre des 100 millions d'exemplaires distribués. Donc voilà, ce qui confirme le fait que c'est un jeu qui a sans doute battu tous les records possibles.
Qu'on est au jeu le plus vendu là, non ?
C'est possible.
Je crois que Super Mario est encore.
J'en doute un peu. Ouais.
Il n'y avait pas un truc.
Pas Wii Sports.
Oui, c'est Wii Sports.
Oui, mais il a triché. Wii Sports.
Oui, c'est vrai. En non bundle, oui, ça doit être.
C'est sans doute le jeu le plus vendu de l'histoire.
Oui, et celui qui a rapporté le plus de pognon.
En fait, tout dépend comment on compte, mais c'est vrai qu'il y a Tetris et Minecraft qui peuvent être aussi des bons prétendants, mais comme ils sont sortis sur plein de plateformes différentes, c'était pas tout à fait les mêmes jeux. C'est un peu compliqué. 100 millions. J'ai quand même le sentiment que c'est le premier.
100 millions en 5 ans, oui, là, c'est clairement.
Enfin, je pense qu'il a un record, je ne sais pas lequel, mais il doit en avoir un. Hein, oui, c'est ça.
On peut affirmer ça tranquillement.
Ouais.
C'est tout.
Rapide, mais
c'est déjà impressionnant. Mais de toute façon, on va reparler évidemment de Red Dead Redemption 2 avec le com des coms. Et on commence par le commentaire de Palmer, commentaire très énervé, qui dit: je crois que vous fantasmez complètement sur le loot et le désapprentissage parce que vous voudriez voir le jeu plus brillant qu'il n'est. Clairement, à la fin de chaque tuerie, les potes se barrent et Arthur Morgan dit: je vais rester encore un peu et je vous rejoins. Et le jeu nous dit très grossièrement: allez, c'est l'heure du loot. Et de fait, c'est l'heure très pénible d'aller fouiller chaque cadavre, chacun des 30 cadavres, un par un, ramasser chaque bouteille de gin à la con, une par une, parce qu'il n'y a pas de bouton tout ramasser. Parce que le gameplay est à chier. Ce n'est pas du génie, ce n'est pas du désapprentissage, c'est juste fini avec les pieds. Voilà, donc Palmer n'est pas hyper d'accord avec nous. Alors moi, on avait raconté quand même ce passage, enfin en tout cas c'est un passage qui a été vécu par beaucoup de joueurs, où effectivement, c'est l'heure du loot, on commence à fouiller chacun des 30 cadavres, et pendant qu'on est en train de fouiller, il y a la patrouille qui se ramène, ah oui. Il y a les flics, il y a les chiens, et là c'est mal parce que t'es tout seul et que tu vois tout le monde se radiner, parce que t'as pris trop de temps pour faire ton loot classique, et parce qu'il n'y a pas de bouton ramasser, et tu te ramasses la gueule contre les flics et tu meurs comme n'importe quel hors-la-loi de bas étage. Donc c'est là où on a parlé de désapprentissage. Peut-être que sur ta séquence, cher Palmer, tu n'as pas vu les flics se ramener. Hein. Peut-être que ça arrive, ils étaient pas là.
Je te préviens quand même quand les flics rappliquent.
Bon, de toute façon, moi, la première fois, j'ai pas vu. Je l'ai vu parce qu'ils étaient là, en fait. J'ai vraiment su rendu compte trop tard.
Personnellement, je m'attarde pas trop.
Je ne m'attarde plus. Mais après, c'est pas le seul commentaire négatif. C'est assez marrant de voir comment il y a une polarisation complète des réactions sur Red Dead 2, c'est-à-dire que soit il y a une adoration absolument manifeste, une subjugation par rapport à ce jeu, soit il y a un rejet pur et dur de la proposition de Rockstar.
La surmédiatisation du jeu, il y a peut-être pour quelque chose, tout le monde se sent obligé de se positionner sur le jeu, alors que dans d'autres cas, on se serait juste fichu. Quoi.
Ouais. Tu n'étais pas là la semaine dernière, France, et toi, tu es encore dessus, en fait.
Moi, je suis dessus. Ce matin, je suis retourné dans les montagnes du début du jeu. C'était une très, très belle expédition. J'ai adoré ça. Retourner dans les montagnes enneigées.
Moi, j'y suis retourné de nuit et il y avait les rayons de lune à travers les qui traversaient les arbres. Et c'était absolument extraordinaire comme. Ouais. Et j'étais très étonné, mais même à Libération, c'est assez marrant, je me suis fait prendre à partie par Robin qui travaille à Check News, qui lui déteste le jeu, enfin voilà, il m'a insulté parce que j'avais aimé ça. Non, mais c'est assez marrant comment ça les gens effectivement ont cette nécessité de se positionner, et en plus à partir du moment où c'est un jeu qui a été qui a semblé être indispensable pour tous les joueurs, c'est-à-dire tout possesseur de console se doit pratiquement d'acheter Red Dead Redemption 2. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément prêts ou qui n'avaient pas envie de cette expérience.
Pour ça, en fait, j'essaie de garder un positionnement de je m'en fiche, mais c'est parce que j'ai pas de console, en fait.
Mais parce que t'as pas le choix, toi.
Je crois qu'il sortira sur PC l'année prochaine, c'était annoncé.
Tu y joueras.
En fait, mon PC, je suis pas sûr qu'il fasse tourner Red Dead, mais on va voir.
Nico M qui dit sur Red Dead et la narration, je suis en complet désaccord avec Patrick Helio sur la linéarité de l'aventure. Pour moi, la feature principale la fonctionnalité principale du titre et de son écriture, même avant le rythme, est justement l'aspect non linéaire, le sentiment de liberté induit. Pour la première fois de mon expérience, en tout cas, un open world réussit à conjuguer scénario et ouverture. Prenons au hasard Batman. Malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu, est-il vraiment cohérent de s'amuser à essayer de battre son record sur circuit en Batmobile ou de passer 20 minutes à essayer de choper ce trophée de l'homme mystère planqué dans un conteneur, quand en un même temps on a la GCPD qui est assiégée ou Catwoman retenue en otage. Même chose avec les Yakuza, pourtant par ailleurs ma série de jeux préférée, ou alors que Kiryu est en état d'urgence permanent, il trouve le temps d'aller jouer à Fantasy Zone dans une salle d'arcade. Ici dans Red Dead, on pose le campement et allez, chacun des membres du gang doit trouver un moyen de gagner sa part. C'est une invitation à la découverte et à tenter des trucs, à explorer la carte et ses possibilités sans jamais entrer en contradiction avec le scénario qui sera servi par petites touches selon ce que viendra picorer le joueur. Pour moi, au niveau narratif, c'est la grande trouvaille et la grande réussite du jeu. Juste pour compléter, je pense que ce que disait Patrick sur la linéarité du scénario, c'est pas forcément une linéarité totale, c'est le fait d'être embringué dans la narration, dans l'histoire, alors que lui, il avait plus un aspect pur open world avant sur les jeux comme le premier Red Dead ou tout ça, où finalement il n'avait pas été aussi captivé par le récit du jeu. C'est là-dessus où je pense qu'il a parlé de linéarité, c'est pas une linéarité factuelle, c'est pas un couloir Red Dead, loin de là. Et enfin Stonganov qui répond à Red. Alors voilà, Red qui dit enfin, comment faire comprendre à Rockstar que les personnages féminins méritent mieux et qu'ils manquent terriblement au jeu, tout comme une expérience VR. Bon, l'expérience VR, on lui dit ça, mais c'est pas le sujet. Stongan 9 répond, je ne comprends pas ce genre de remarques qui font écho au discours préambule de Camille hein, dans l'émission sur Red Dead Redemption 2. Comme pour un RPG où le personnage est créé de toutes pièces par le joueur au début de l'histoire, je comprends le besoin d'identification et la nécessité de pouvoir y incarner une femme ou un homme. Même chose pour un jeu où on choisit un personnage parmi une galerie, Street Fighter, PUBG, etc. Idem pour un jeu de sport, FIFA, avec ses équipes féminines. Mais pour un jeu où une histoire est racontée, j'ai du mal à saisir le problème. Sinon, il faut que dans chaque jeu, il y ait une proposition identique de blanc, de noir, d'asiatique, de femme, d'homme. Dans les 7 personnages, faut-il reprocher aux scénaristes de ne pas avoir mis de femme parmi les personnages principaux ? Dans The Descent, faut-il reprocher qu'il n'y ait pas de femme parmi les protagonistes ? Si le discours du jeu était manifestement sexiste, il y aurait bien sûr rien à redire. Mais je ne crois pas que ce soit le cas ici. Il y aura peut-être dans le futur un jeu Rockstar ou autre dans lequel les protagonistes seront des femmes et dans lequel les hommes seront relégués au second plan. Et si le jeu est bon et que l'histoire est bonne, tant mieux.
Je me rends pas trop compte de la quantité de missions qu'il peut y avoir qui puissent refléter des envies de représenter les femmes ou quoi. Mais il y avait pas les petites missions avec les suffragettes ou des trucs comme ça dans le jeu. Il me semble.
Non, on en a parlé. Après, c'est comment dire. C'est quand on parle de sexisme dans ce truc de Rockstar, c'est aussi un sexisme systémique. C'est un sexisme culturel. C'est le fait de ne penser en tant que créateur de jeux vidéo à que des histoires d'hommes. Et je pense que c'est ça le truc des frères Hauser et du pôle créatif de Rockstar, c'est que ils ont un imaginaire, ils ont une base culturelle où ils ne se posent même pas cette question. Oui, en fait, c'est ça le truc. Eux, ce qu'ils imaginent, ce sont des histoires d'hommes. Ils ne se posent pas, ils se mettent pas en situation de prendre en compte ce sexisme systémique et d'imaginer des histoires de femmes. C'est là-dessus on leur reproche pourquoi ? On leur reproche parce que c'est Rockstar, parce que c'est le studio le plus important au monde aujourd'hui en termes d'influence générale. Il n'y a pas un équivalent à Rockstar en termes de jeu qui peut porter comme ça une parole forte dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est là-dessus où on leur fait le reproche. C'est pas on leur fait le reproche d'avoir fait un jeu avec un héros masculin. Ça arrive, évidemment. Mais parce que c'est Rockstar, parce que ça fait 51 jeux qu'ils font des jeux avec des hommes où seulement des hommes sont jouables et que il y avait GTA V où il y avait 3 personnages là il y avait l'occasion peut-être de mettre un, mais non, il y avait encore une fois 3 hommes. Donc après ce jeu avec 3 hommes jouables, on retrouve encore un homme jouable. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas l'affaire du siècle. C'est, je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à marteler. Ouais. Voilà, Ubisoft il y avait Unity où on leur a reproché dans le multi d'Unity, on ne peut pas jouer une femme alors qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir en jouer une. Trois jeux plus tard, il y avait vraiment Odyssey où on avait un vrai personnage féminin, et il y avait un jeu plus tard, Syndicate, où il y avait aussi un personnage féminin jouable. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent. Peut-être que ça fera peut-être un jour évoluer Rockstar. Ouais,
en attendant, je doute que Rockstar ait jamais eu l'intention ni même l'idée de faire un jeu dont le personnage principal serait une femme.
Mais c'est ça le souci.
Je pense que ça n'arrivera jamais. Sauf si on finit par leur faire comprendre qu'à un moment ça pourrait être intéressant de le faire, quoi.
Sauf si
économiquement, tu veux dire.
Même pas économiquement.
Et qu'ils ont une responsabilité culturelle aussi.
Je pense que ça ne leur traverse même pas l'esprit.
Ouais, je pense.
C'est ça, mais c'est un sexisme systémique. C'est pas. On dit pas que Dan Hauser il bat sa femme ou il est sexiste ou il est. Enfin voilà, on dit pas ça. C'est pas.
Par ignorance presque, par inconscience.
Par non responsabilité, par irresponsabilité en fait. C'est plus là-dessus. Bref, c'est le moment de commencer notre petite série de jeux. On va commencer par de la joie, par de la bonne humeur, par... comment dire, Quentin, je ne sais pas, par la fête, par le
sourire. En anglais, on aurait dit With Glee, mais je n'ai pas d'équivalent.
C'est Wandersong. Un jeu de Greg Lobanov, un jeu d'un créateur, et bon, il s'est entouré de musiciens, je crois, aussi, pour de quelques musiciens.
Plusieurs producteurs musicaux, et un musicien en particulier qui avait travaillé sur Night in the Wood, qui a fait une OST gigantesque, il y a au moins 150 pistes, je crois, c'est n'importe quoi.
Vu que c'est grâce à toi que j'ai essayé Wandersong, je vais te laisser en parler.
Ah, bah alors Wandersong, on va commencer par définir ce que c'est. C'est un petit puzzle platformer, on va dire, en 2D. C'est... Graphiquement, on va dire que c'est un peu comme si un livre de collage de formes géométriques simples pour représenter des maisons, des petits personnages, se mettait à bouger, se mettait à s'animer. Ce qui donne un aspect très enfantin, coloré, lumineux, au tout. Enfin, lumineux, on pourra en reparler, hein, mais ça dépend des ambiances. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de très simple et finalement assez facile à appréhender. D'ailleurs, le jeu commence sans aucune introduction. On se met à jouer un petit personnage qui a l'air chauve avec son petit chapeau, puis qui est tout sourire, et puis qui avance, qui récupère une épée, puis il peut pas la porter parce qu'elle est un peu lourde. Puis en fait, il la laisse tomber son épée vraiment, puis
ça,
puis il se met à chanter, parce que c'est plus sympa de chanter. Voilà, donc notre personnage est un barde sans nom, on pourra même le nommer hein, plus tard.
Moi,
dans
il
le
s'appelle
jeu.
Kelt.
Oui, il s'appelle Glenn.
Voilà, parce que nous avons, en fait, le système de décision du nom est juste. Je fais une aparté, hein, parce qu'à un moment, on choisit son nom. Comment tu t'appelles? Et là, en fait, il faut voir, tu en parleras, hein, mais il y a cette roue de chant où il y a un peu comme une rosace des vents. Hein, il y a 8 directions. Hein, et là, dans chaque direction, de manière quasi aléatoire ou purement aléatoire, il y a 8 lettres qui s'affichent. Et donc, on doit choisir la première lettre parmi ces 8 lettres. Et puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et là, tu te retrouves, sans trop avoir compris comment, avec un prénom. Et puis bah, là, tu le gardes, hein, parce qu'il s'appelle Kelt. Il s'appelle Kelt, voilà.
Ça marche, si ça sonne bien après tout.
Mais oui.
Et j'aime bien parce que ça arrive genre chapitre 2. C'est genre, on t'appelle pas au début, tu vois. C'est, oh le barde, ok, très bien, c'est moi, bonjour. Donc voilà, donc au début, on démarre, c'est assez simple. Un ange du ciel, grosso modo, nous dit... Alors, malaise. En fait, le monde va s'arrêter.
Enfin, il va rebooter.
Il va rebooter. Ouais. Sauf que voilà, ouais. Vous n'allez pas passer dans la nouvelle version. Quoi. Enfin, c'est un peu le problème. Donc,
désolé.
Mais c'est littéralement, je crois, ce qu'elle dit. Quoi.
Sorry.
Désolé, je t'adore, t'es trop mignon, mais. Voilà, ça va pas le faire.
Voilà.
Et
du coup
le barde il se démonte pas, il se dit non, je vais sauver le monde, je vais trouver les gardiens et apprendre le chant de la terre.
Le chant du monde.
Le
chant de la terre, c'est bien.
Le chant du monde, c'est bien. C'est même une meilleure traduction, je pense. Le chant du monde, je vais trouver le chant du monde parce que l'ange lui souligne, lui dit peut-être que si tu apprends le chant du monde, il y a moyen de faire quelque chose. Donc on part à la rencontre des gardiens pour apprendre le chant du monde. Ils sont 7, donc il y a 7 morceaux de chant à apprendre, c'est très quête classique de RPG. Il y a un chapitre à chaque fois pour chaque morceau et à chaque fois un monde, un univers, une thématique différente avec quand même une forme de continuité sous la forme de Myriam. Ah, Myriam, qu'est-ce que j'adore ce personnage. Donc Myriam est une sorcière grincheuse, genre... Il faut savoir que dans Wondersong, on est un barde et qu'on se met à chanter tout le temps. Donc tu l'as dit, il y a cette roue qu'on utilise avec le stick droit. Et à tout moment, on peut chanter. Même pendant les dialogues, même pendant... le mec, il se met à chanter tout le temps. Et on se met à chanter en marchant, en courant. Ouais. Et tout. Et c'est un peu, ça correspond un petit peu à la musique qu'on entend en même temps de fond sonore quand on se déplace.
Et la musique s'adapte. Les tonalités, en fait, on a 8 notes. Hein, donc avec cette roue, cette rosace de son comme ça, en fonction de la direction du stick. Et la musique... s'adapte, c'est-à-dire la musique change de tonalité à chaque fois en fonction de la note que tu es en train de chanter, et c'est très très fort.
Donc le jeu est très joyeux, tu te mets à chanter tout le temps, tu chantes à toute occasion, c'est rigolo, et t'arrives début pareil, désolé je spoil le moment, mais t'arrives début chapitre 2, pareil, tu t'arrives en chantant, t'es content, et là, stop, c'est moche, arrête, t'es chiant, et tout, et c'est Myriam, c'est la sorcière qui est grincheuse, et en fait, voilà, il y a une espèce de duo qui va se mettre en place, que le barde est joyeux tout le temps, il est sourire, il est tout le temps sourire, tu sais que quand il sourit pas, c'est qu'il y a un problème, et vraiment rigolo ce petit personnage. Et il y a Myriam qui est l'inverse, grincheuse, pas méchante mais vraiment grincheuse, qui est donc une petite sorcière et qui va nous accompagner
avec un petit discours souvent méta sur le côté non mais arrête avec ces side quests inutiles, on a notre but machin, c'est très drôle.
Et donc on lui explique qu'on va vouloir sauver le monde. Donc voilà, on arrive donc dans ce jeu là qui est vraiment très coloré, très joyeux, un peu comique. Toi qui as des gosses, je pense que c'est le genre d'histoire qui pourrait plaire aux gosses. Le jeu est en anglais malheureusement, donc c'est compliqué pour les enfants, mais je pense que des enfants pourraient vraiment apprécier ce genre d'histoire un peu rigoloto bébéto, mais quand même intelligente dans le fond, d'autant que le gameplay, alors il faut reconnaître que le gameplay pisse pas très loin. On est sur donc du platformer avec quelques touches de puzzle sur la base des champs.
Un peu de rhythm game
de temps à autre. Mais le sel du jeu ne vient vraiment pas de là. D'ailleurs, les rares phases de plateforme sont pas ultra bien réussies. Disons que il y a toujours le même schéma qui se met en place. On arrive dans un monde, on essaie de comprendre où est le nexus, qui est le point en fait où on va rencontrer le gardien. Il nous faut un champ pour entrer dans le domaine du gardien, pour rencontrer le gardien. Donc la première quête à chaque fois sera de trouver ce champ qui ouvre la porte. Donc l'univers va changer. Au début, ça sera un village. Ensuite, on arrive dans une ville un peu plus grosse. Ensuite, il y a les pirates. Ensuite, il y a vraiment plusieurs, il y a plusieurs univers qui s'entrechoquent, qui se mettent. On arrive dans une usine, un truc un peu la Tim Burton, une grande ville toute grise où tout le monde travaille avec un emploi du temps. En fait, on doit bouleverser l'emploi du temps et provoquer une révolution dans la ville pour réussir le chapitre. Voilà. Donc il y a plusieurs univers comme ça qui se mettent en place, autant de petites fables qu'on va raconter et qui est en fait des situations que le barde va résoudre par le chant. Donc voilà, et en fait, une fois qu'on a réussi cette quête-là, on entre dans le domaine du gardien, et là on a des phases de plateforme qui sont en effet pas très bien réussies. Enfin, elles sont pas ratées non plus.
Oui, voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est il y a une utilisation du champ hyper variable. C'est-à-dire que il y a plein. En tout cas, dans tout le début du jeu, moi, je l'ai pas fini encore, mais c'est vrai que dans tout le début du jeu, il y a une sorte d'évolution du gameplay comme ça, de découverte avec des phases de rythmique, des phases où de répétition de son, des phases où le champ va servir à la plateforme à diriger des choses, ouais. La manière dont une plante va pousser, ou la manière dont le vent va souffler, ça va changer les choses. Et donc, à chaque fois, comme ça, le chant, en plus d'accompagner finalement l'expérience, parce que ça fait partie de la musique, ça fait partie de l'ambiance sonore et tout ça, il va s'incorporer au gameplay de différentes manières, et à l'histoire aussi, parce que l'histoire prend en compte le chant et toute cette ambiance comme ça qu'il crée. Et il y a un côté non difficile, hein, mais il n'y a pas de gros challenge, c'est très tolérant hein, sur l'aspect rhythm game. J'étais un peu une quiche et je passais les chapitres sans trop de problèmes. Je pense que on m'aurait proposé l'équivalent de Wondersong avec le gameplay de Céleste, par exemple, ça m'aurait plus, enfin voilà, ça aurait pas été la même quoi. Là c'est très 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 free, enfin voilà, à partir du moment où t'as compris ce qu'il faut faire, que tu le fais à peu près bien, bon ça passe. Donc
je trouve que le jeu est assez intelligent là-dessus, c'est-à-dire qu'il sait que son gameplay n'est pas particulièrement sophistiqué ou alors intelligent ou novateur, mais en fait il va tout mettre sur vraiment je mets l'emphase là-dessus, des dialogues extrêmement bien écrits.
C'est tellement bien.
Non, c'est très très bien écrit. C'est un peu ce parler un petit peu internet, un petit peu ouvert, un petit peu. Il s'envoie des scuds régulièrement, mais des gentils scuds. Enfin, c'est vraiment bien écrit. Il y a une histoire aussi dans sa structure générale qui a une vraie montée en puissance. On sent vraiment l'aspect de la quête. De toute façon, l'histoire, la fable, hein, c'est comment l'amour et l'amitié et le chant peuvent vaincre l'épée, la guerre et la méchanceté, grosso modo. Donc, on est vraiment dans un truc très très classique.
On n'est pas bien là ? On n'est pas bien ?
Voilà. C'est très mignon.
Après des flingues et des choses comme ça, des hors-la-loi et des gangsters, on n'est pas bien là dans un...
Mais on pourrait se dire, ça pourrait faire peur, un tel scénario, genre, oh là là, ça a l'air bateau ton truc, ça a l'air tarte
c'est
à la
trop
crème.
Bien.
Mais c'est tellement apporté avec une telle sincérité, c'est tellement apporté avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles, que tu peux que faire, vas-y, je supporte les gentils, enfin je soutiens les gentils complètement, je suis à fond avec vous les gars. Et en plus tout ça est amené aussi avec une montée en puissance du scénario avec les chapitres, où en fait il y a quand même un crépuscule qui arrive vers la fin du jeu qu'on voit venir depuis assez longtemps. Les chapitres deviennent de plus en plus sombres, il y a des montées, il y a des descentes, c'est presque un opéra finalement. Wondersong, à la fin, moi j'ai fini à 8h du matin sur ma Switch en voulant savoir ce qui se passe à la fin, quoi. Parce qu'il y avait quelque chose de très très épique, de très haletant, et je voulais savoir comment ça se finit. Et ça se finit, en tout cas, je pense que c'est pas un secret, ça se finit de manière musicale merveilleusement intéressante et intense. Et du coup, j'incite tout le monde à jouer à Wondersong.
Une vingtaine d'euros sur Switch et PC.
L'esprit ouvert et
Il est sur les consoles de salon.
Alors non, il est sur PC. Attends, je l'ai noté. J'ai joué PC sur Mac Switch.
PC Mac Switch, voilà. Vandersong de Greg Lobanov. Félicitations à lui. Je pense que je serais passé à côté si tu m'en avais pas parlé.
Et c'est chez Humble Bundle de manière intéressante qui édite de plus en plus de jeux. Hein, il faut bien reconnaître. Et de pas mauvais jeux. À Teen Time, c'était déjà eux. Là, je crois qu'ils ont même ouvert leur programme de soumission. Enfin, on peut leur proposer des jeux. Et Humble, continuez comme ça, c'est intéressant.
C'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy Klitskin. Il va nous parler d'un jeu que j'ai acheté et que dont je n'ai pas encore joué. Donc je suis très content. Je vais voir ce que j'ai acheté. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Cette semaine, on va parler d'un jeu qui buzz de partout. Quand on y joue, on se demande comment l'auteur Wolfgang Warsch a pu penser à un truc pareil. Le jeu s'appelle The Mind, et sous ses airs de petits jeux de cartes tout simples, se cache un ovni complètement fou. Écoutez bien les règles, sur le papier ça fonctionne pas, mais quand on a les cartes en main, nous on comprend peut-être pas, mais notre cerveau il prend le relais et ça fonctionne. Il s'agit donc d'un jeu coopératif. Il y a un deck de 100 cartes qui sont numérotées de 1 à 100, il y a aussi 12 cartes de niveau qu'on va devoir passer les uns après les autres, quelques cartes vie et des cartes de shuriken, vous savez les étoiles de ninja, qui vont servir de joker. Au premier niveau, chaque joueur va recevoir une carte, on commencera le second niveau avec 2 cartes, puis 3, 4, etc. Le but du jeu est simple, il faut les poser dans l'ordre. Et c'est là qu'intervient cette innovation folle, il n'y a pas de tour, les joueurs n'ont pas le droit de communiquer entre eux, pas de signes, pas de paroles. Et ils sont libres de poser leurs cartes absolument quand ils veulent, quand ils le décident. Prenons un exemple. Disons que j'ai la carte numéro 2 dans la main. Comme je n'ai vu personne se précipiter pour mettre la numéro 1, je la mets rapidement, avant qu'un autre joueur ne décide de poser un éventuel 3, 4 ou 5. Puis un long silence suit. On se regarde tous comme ça. Oula, les autres joueurs ne semblent pas avoir de 10, de 12, de 15. Soudain, l'un d'entre eux décide de poser un 21. Et moi, évidemment, tout de suite, je pose mon 22 et mon 24. Et on continue jusqu'à temps que tous les joueurs aient joué toutes les cartes qu'ils ont en main. À tout moment, ils peuvent décider de lever la main pour utiliser un joker, une carte shuriken. Chacun d'entre eux pourra alors défausser sa plus petite carte. Quand on pose une carte plus petite que celle en haut de la pile, on perd une vie. Certains niveaux vous offriront des shuriken supplémentaires, d'autres des vies supplémentaires. Alors on pourra toujours essayer de compter dans sa tête, trouver des astuces. Mais il n'y a rien de plus jouissif que de jouer à ce jeu de manière complètement organique. Et en se laissant complètement aller, parfois on accède au flow. Vous savez, cet état. Les joueurs se regardent les uns les autres et comprennent pas vraiment comment ils ont réussi à faire ça. À mon avis, le jeu ouvre comme une brèche dans le game design. On verra sans doute bientôt apparaître d'autres tentatives pour utiliser cette mécanique dans des jeux probablement un peu plus complexes. Je rappelle le nom du jeu, The Mind, par Wolfgang Warsch. De 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10-20 minutes, à partir de 8 ans. C'est édité chez NSV, en rupture de stock un peu partout. Moi, j'ai réussi à choper une copie en allemand, mais ça sera à nouveau disponible dans toutes les langues très bientôt. Et voilà, encore un jeu de plateau complètement inadaptable en jeu vidéo. Bye bye!
Bye bye Jérémy. Et ouais, j'ai très très envie d'y jouer. Moi, j'ai eu mon exemplaire. Il est peut-être en rupture, mais moi, je l'ai acheté. Voilà. Non, mais parce qu'il était très conseillé. C'était sur un réseau social quelconque. Je crois que c'est Étienne Mineur qu'on avait reçu dans Silence en Joue il y a quelques années, qui en a parlé. Il disait que toute son équipe jouait à ça. Et je me suis dit, oh, je fais du achat compulsif. Voilà. Donc, bref, The Mind. Allez, c'est le moment de parler. On en a parlé quelques fois, je crois, déjà dans Silence en Joue. On l'a annoncé.
Patrick l'a mis en news,
ouais,
je crois.
Patrick l'a mis en news. C'est le retour de Lucas Pope. Lucas Pope, Papers, Please, évidemment, avec Return of the Obra Dinn. You bastards may take exactly what I give you! Come on before she kicks off. Here, let me help you. What madness is this? Here I go, run! Keep rowing! Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lucas Pope, il nous fait rêver avec ses métiers. Hein. C'est après agent des douanes. C'est vrai que bon, un jeu vidéo où on te propose d'être agent des douanes, je veux dire, ça fait tout de suite t'achètes. Hein, là aussi, c'est de l'achat compulsif. Et bien là, c'est agent d'assurance. Hein, ouais.
Toujours aussi sexy.
C'est
un peu plus que ça. C'est directeur, inspecteur en chef ou inspectrice en chef. On peut être un homme ou une femme. Inspectrice en chef ou inspecteur en chef, genre des assurances de la compagnie des Indes. Enfin bon, oui, c'est un peu spécifique.
Alors, c'est quoi cette proposition Return of the Obra Dinn, France?
Ben, donc, comme tu l'as dit, c'est le nouveau jeu de Lucas Pope, donc c'est fait connaître avec Papers, Please, qui a eu un grand succès, presque surprise, hein, en 2013. Mmh. Et donc, du coup, ce succès lui a permis de prendre son temps, ensuite, financièrement, pour développer tout seul donc, ce jeu, Return of the Obra Dinn. Donc, les premières images avaient été dévoilées il y a déjà bien 4 ans, il me semble. Hein. Et à l'époque, on ne savait pas très, très bien ce qu'allait être ce jeu, puisqu'en fait, Lucas Pope, au départ, ce qui l'intéressait, lui, c'était de recréer le graphisme des jeux Macintosh des années 80. Mmh. Donc, il est parti, c'est intéressant, dans sa démarche, il est parti d'une envie graphique, en fait. De créer un jeu qui reprenne ces nuances de noir et blanc, là. Et du coup, ce qui donne un résultat absolument fascinant, après, quand on est dans le jeu. Et donc, ensuite, il s'est demandé, bon, qu'est-ce que je vais élaborer autour de ça, quoi. Oui. Et il s'est avéré qu'il a choisi de faire un jeu d'enquête, un jeu d'investigation. Donc, effectivement, on incarne un détective d'une société d'assurance.
Toi qui es fan de Columbo, ça doit te plaire, ce genre de jeu.
Ouais, j'aime bien, j'aime bien.
En plus, c'est sur le côté Columbo, c'est-à-dire qu'on connaît déjà le mort, on connaît le là, il faut juste savoir qui a fait quoi.
Et donc, on débarque sur ce bateau donc, qui était donc, le Obra Dinn, qui était parti en 1802 d'Angleterre pour faire la route des Indes en passant par le sud de l'Afrique et qui a disparu et donc qui est revenu 5 ans plus tard en l'état quasiment fantôme. Il est revenu errer au large de l'Angleterre et donc on va dessus pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux 60 personnes qui étaient sur ce bateau. Donc on arrive et on tombe sur les restes d'un corps. Et là, c'est là que le jeu dévoile du coup son astuce de gameplay, c'est que on peut, grâce à une montre, revenir au moment précis où cette personne est morte. Et donc, on se retrouve dans une image figée de cet instant, dans une sorte de diorama, du coup, dans lequel on peut déambuler dans cette image fixe et voir.
Et on entend la conversation qui a précédé l'image. C'est-à-dire qu'il y a cette scène fixe. Parce qu'on peut se trimballer dans la scène et on entend avant que la scène apparaisse.
Derniers dialogues.
On entend les derniers dialogues.
Les derniers sons, les derniers dialogues. En sachant pas forcément qui a dit quoi. Ça fait partie de tout le jeu de déduction. Du coup, au début, c'est assez facile puisqu'on comprend que c'est le capitaine qui a tiré sur le bonhomme qu'on découvre. Donc, on peut très vite identifier le capitaine.
Ils indiquent juste le mort dans la dialogue. Ils mettent une croix devant la personne
qui est morte. Ils mettent une croix à côté du mort, des dialogues du mort, effectivement. Et donc, en fait, après, le jeu va se développer, se dévoiler autour de ça, d'un corps à l'autre. On finit par découvrir l'ensemble des morts du bateau.
C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu est de décrire la scène qu'on voit, c'est-à-dire qui est mort, comment et par qui.
C'est ça.
Et il faut bien comprendre, et je pense que c'est le truc, moi en tout cas, j'avais rien lu dessus, donc c'est le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est un puzzle d'ensemble, c'est-à-dire que on va pouvoir trouver ces trois composants de chaque scène avec l'ensemble des autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas les indices, c'est pas une sorte de point and click où on va trouver les indices dans une scène pour savoir qui est qui et qui a fait quoi. C'est un ensemble de scènes différentes qui va pouvoir chacun amener des indices sur l'autre. Enfin voilà, c'est comme ça.
C'est là que le jeu devient vertigineux en fait à un moment, c'est-à-dire que on finit par accumuler le nombre de scènes de morts et donc avoir une quantité d'informations qui nous tombe dessus, des scènes qui sont toujours très cryptiques et donc dans lesquelles on comprend pas tout évidemment. Et donc tout l'enjeu de l'affaire, c'est à un moment d'arriver à se mettre l'esprit au clair sur tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on a vu pendant quelques heures, et d'essayer de comprendre. Parce que 60 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, on a un livre à compléter, du coup, on voit un dessin où les 60 personnes sont représentées. Donc, déjà, rien que ce dessin donne des indications, parce que suivant l'endroit où elles se trouvent dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, tout est vraiment exploitable. Il y a même des gens dont on va découvrir le destin à travers la mort d'une autre personne. Si on se balade sur le bateau, au moment où il y a quelqu'un qui se fait tuer par un kraken, on peut se promener et voir que quelqu'un d'autre est au même moment en train de mourir d'une manière différente.
Alors, pour expliquer, tu as donné déjà cette histoire de Kraken, il arrive au début du jeu. Juste après la phase de tutoriel, il y a cette scène qui est assez sidérante,
assez
époustouflante, où on découvre comme ça un mort et on se retrouve sur le pont du bateau avec les tentacules du Kraken qui prennent des bouts de mât et qui ont capturé des marins et on se retrouve là avec cette scène figée encore une fois à se promener au milieu comme ça de cette scène apocalyptique
Les vagues figées,
c'est assez marrant parce qu'on comprend. enfin c'est vachement subtil, enfin de parce qu'au début on se dit qu'on n'est pas du tout dans un truc, non, mis à part cette montre qui permet d'avoir de remonter dans le passé comme ça, mais on n'est pas forcément on est sur une enquête policière finalement classique, et là bim, très vite, non, il y a un truc quand même avec le Kraken, avec ce genre
le jeu joue très bien de ça, il nous fait très vite comprendre dans les premières demi-heures en gros qu'on va passer de drame intimiste des relations entre les personnes sur le bateau qui parfois se sont dénouées de manière tragique à des choses complètement apocalyptiques et surnaturelles qui sont produites et qui ont alimenté évidemment le bazar, le grandiose bazar qui a conduit à ce que tout le monde soit mort ou disparu, puisqu'il y a des gens qui sont peut-être pas morts, et ça il faut le déterminer aussi, ce qui n'est pas évident. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui mobilise vraiment beaucoup, qui repose énormément sur l'esprit de déduction du joueur, peut-être parfois presque à l'excès, puisque du coup le système du jeu, il fonctionne aussi avec un système de validation. Donc quand on découvre le sort de trois personnes et qu'on ajuste sur le sort de trois personnes, donc de quoi elles sont mortes, et le cas échéant par qui ou par quelle créature, le jeu le valide. Donc parfois, on se retrouve un peu aussi à jouer avec le système de jeu, ce qui peut être un peu une de ses limites aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on a vraiment très très peu d'indices. Moi, franchement, il y avait des gens, je voyais pas comment résoudre leur sort autrement qu'en faisant des tests, en associant des noms à des personnes, jusqu'à ce que le jeu finisse par me dire bon bah c'est bon, vous en avez trouvé trois de plus.
Je crois que tout le monde est passé par là.
Bah oui, ça me semble inévitable.
Il y a ce gabier chinois qui se fait électrocuter. Ouais. Je sais pas comment déterminer ça. Après, je me pose la question, est-ce que Lucas Pope n'a pas fait ce système-là aussi?
Peut-être.
Pour voilà, on vous donne ce système-là, à vous de jouer avec. On sait qu'il y a certaines personnes, vous ne les aurez que comme ça, donc n'hésitez pas.
Je pense que ça fait partie du jeu.
Si un jour j'ai Lucas Pope face à moi, je lui poserai la question, parce que je suis très intéressé.
Ouais.
Et donc, c'est quand même ce que tu dis, tu as fait un article dans Libération dessus, c'est il y a ce côté où l'enquête est un genre dans le jeu vidéo qui est très peu exploré finalement.
Oui.
La vraie enquête, c'est-à-dire le truc... et tu le cites aussi, c'est Her Story qui vient en tête, cette enquête parmi une histoire qui s'est déjà passée pour essayer de comprendre, de refaire le puzzle, c'est-à-dire l'enquête en termes de puzzle à recomposer par ses propres moyens de déduction.
Oui.
Et Her Story avait très bien fonctionné là-dessus, le puzzle narratif. Là, on est sur une autre proposition, peut-être plus proche de Cluedo.
On est assez proche du Cluedo. C'est un peu, voilà, il faut résoudre la mort de toutes les personnes. C'est vrai que la question de comment faire un bon jeu vidéo d'investigation, c'est une vraie question. Et le jeu vidéo tourne autour de ça quand même depuis un certain nombre d'années. Bon, il y a eu des propositions, genre la série des Ace Attorney, que moi j'adore. Après, le problème de ces jeux, c'est que parfois, l'esprit du joueur va plus vite que le jeu, donc on comprend trop vite ce qui est vraiment le meurtrier, et il faut attendre que les dialogues nous amènent au moment où on pourra dire ah bah c'est lui le meurtrier.
Il y a les Sherlock Holmes aussi, mais c'est pareil, c'est des astuces de gameplay plus que une vraie. On n'a pas l'impression que c'est son cerveau qui a battu le jeu en fait.
C'est ça. En fait, c'est toute la difficulté de ce genre de jeu. Ouais.
C'est une vraie problématique de game design, mais pour l'instant, et je trouve que Lucas Pope a une belle proposition là, même si encore une fois il y a cet aspect, on va jouer avec le système pour trouver les réponses, qui est quand même, cette proposition est assez intéressante par la liberté qu'elle donne, par une forme de pureté de gameplay qui fait que le système donne pas trop d'indices au jeu, parce que parfois c'est un système donner des indices un peu malgré eux, et ça c'est un des risques en effet. Il y a aussi le risque que le jeu aille plus vite que l'histoire, il y a plein de risques comme ça, et il y a le risque évidemment que ça soit injouable parce qu'on ne comprend rien. Par exemple, si on doit taper à la main chacune des l'histoire exacte de l'affaire telle qu'elle s'est déroulée, et qu'on a fait une faute d'orthographe ou dans un prénom, ou que c'est pas exactement le bon verbe utilisé, et que le jeu refuse ça parce qu'un ordinateur fonctionne comme ça, bah c'est compliqué. Du coup, il y a toujours ce questionnement de comment faire un bon jeu d'investigation à ce niveau-là, et j'ai l'impression que je le fais tout le temps, mais il y a une excellente vidéo de Mark Brown, donc ce fameux journaliste de Eurogamer, qui a fait toute une vidéo sur les jeux d'investigation et qui explique toutes les problématiques et pourquoi, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire le jeu parfait d'investigation.
C'est vrai que je repense à la série récente des Sherlock Holmes, où les deux derniers épisodes reposent un peu sur les mêmes trucs, où voilà, t'es dans une scène, et pour jouer à Sherlock Holmes, il faut trouver les indices sur les vêtements et le comportement ou le visage d'un personnage et tout ça, comme le ferait Sherlock Holmes dans la série anglaise.
Comme le fait O'Bradin, honnêtement.
Dans O'Bradin, il faut lire les visages, il faut tout
lire. Oui, mais sauf que dans ce Sherlock Holmes, c'est un truc de gameplay, tu sais, avec radar qui va s'allumer, qui va vibrer et tout ça. Et Sherlock Holmes va donner sa conclusion à la place du joueur. C'est pas le joueur qui réfléchit, c'est Sherlock Holmes. Et là, c'est vrai que la force d'O'Bradin, c'est C'est ton taf, ça.
Tomb Raider, c'est vraiment tout est dans les mains du joueur. Ouais. Mm. Tout est dans les mains du joueur. Mm. Moi, ça, c'est très intéressant.
Je me rappelle certains aspects de vêtements. Enfin, moi, j'en étais à comparer les chaussures. Quoi. Enfin, vraiment, c'était des moments assez où je me sentais vraiment enquêteur. Tiens, alors non, je ne veux pas le dire parce que ça va révéler des trucs. Mais voilà, j'étais vraiment en train de comparer des vêtements pour essayer de trouver un type qui avait une spécificité au niveau du corps. Vous le verrez, vous comprendrez immédiatement. Je pense que tu vois de laquelle je parle. Peut-être pas, peut-être tu ne l'as pas vu. Sûr. Mais voilà, il y a un truc évident qui est mis en avant par le jeu de manière assez claire. Et du coup, j'ai refait tous les souvenirs pour essayer de retrouver cette spécificité, pour essayer de mettre le doigt, parce que il y avait un élément, il y avait un autre élément qui me permettait de lier un visage à un nom, ce qui est toujours très important. Et tout ça, bah non, il y a pas genre, il y a pas un petit trait où il y a pas appuyé sur A pour observer le détail. Non, c'est libre. Et c'est la force de Bradin. Honnêtement, il y a une belle proposition de jeu d'enquête ici.
Il faut bien se dire quand on se lance dans ce jeu que tout dedans est fait indice. Il y a vraiment rien. Il n'y a rien à laisser passer, quoi.
Ouais, c'est très organique.
Il faut vraiment tout regarder, tout lire dans le livre. Le peu d'informations qu'il y a, elles sont toutes très importantes.
Le glossaire, faut le lire.
Le glossaire est très important, qui permet d'avoir les vocabulaires du bateau et tout. Le plan du bateau est très important, parce qu'on peut voir aussi où sont les quartiers du capitaine, les quartiers du charpentier, etc. Donc ça donne aussi beaucoup d'indications. Je ne vais pas non plus donner toutes les. Mais. C'est en ça que le jeu est intéressant, c'est que aussi c'est quelque chose qu'on découvre en jouant. On se dit tout d'un coup, on rouvre le livre et on est en train de rechercher des informations sur un truc et on se dit ah mais en fait j'avais pas vu que ça c'était voilà la loge du charpentier. Donc en fait maintenant il faut que je retourne sur ce lieu voir à un moment quelqu'un qui est mort dans les coins et peut-être que je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se passait dans la loge du charpentier à ce moment-là par exemple. Voilà, c'est des choses faut vraiment procéder de cette manière et du coup c'est très très prenant.
Je voulais juste compléter. Faut procéder en fait, faut mettre en place des processus de réflexion. Alors que dans les jeux d'investigation, souvent, on t'explique « Bon alors, pour lier des indices entre eux, faut faire comme ça, machin. » Là, vraiment, c'est « Bon, qu'est-ce que je sais ?» Et comment je peux en apprendre plus? Et vraiment, c'est aux joueurs de se mettre en un petit peu dans le jeu pour essayer de se dire, bon, si j'étais vraiment sur le bateau, comment je ferais? Et c'est le meilleur moyen de réussir d'ailleurs ce jeu. Et je trouve que c'est brillant, quoi. C'est vraiment brillant.
Oui, c'est un vrai tour de force.
Reste, il y a un tour de force finalement de gameplay, de gameplay d'investigation. Reste que c'est pas pour son gameplay dont on se souvient, qu'on se souvient de Papers, Please. Pas que, en tout cas. C'est aussi pour le contexte, c'est aussi pour la proposition narrative, pour l'implication du personnage. Vis-à-vis du contexte narratif. Et là, c'est là où Bradin trébuche. C'est finalement.
Alors, cela dit, moi, le gameplay de Papers, Please, moi, j'avoue que j'adorais tamponner les documents. Je trouvais ça très plaisant. Alors, on retrouve le fétichisme de la paperasserie dans Bradin, puisqu'on a ce livre à remplir. Donc, Lucas Pope, clairement, est quelqu'un qui aime bien les documents et qui aime bien qu'on remplisse des documents. Mais effectivement, là où le jeu est limité, c'est qu'en réalité, on finit par avoir donc les fragments épars de tous les destins, de toutes les morts de ces personnes. Et à la fin, qu'est-ce que ça nous raconte vraiment au-delà de ça? Pas forcément grand-chose en définitive. On a un peu l'impression que le jeu n'a pas vraiment d'histoire globale, de propos global plus intéressant que juste l'assemblage de toutes les morts de ces personnes. Et moi, le sentiment que j'ai eu à la fin, c'était un sentiment de satisfaction d'être arrivé au bout du truc. Mais à la fin, le livre, quand il est complété avec toutes les morts de toutes les personnes, en définitive, c'est un peu comme un tableau de score de jeux vidéo classique, quoi. C'est un peu genre, vous avez réussi, voilà, 100%, bravo, quoi.
Je suis pas nécessairement d'accord, parce que j'ai plutôt vu quelque chose comme, comment finalement des événements... Tu l'as dit au début, en plus, comment des événements surnaturels peuvent finalement être aussi mortels que des relations entre personnes idiotes. Il y a ce cas, il y a une vengeance à un moment donné. Je vais pas spoiler, mais il y a une vengeance familiale, entre guillemets, au sein du bateau, qui va amener à d'autres déductions, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait un événement à un moment donné et que des jours après ça se résolve. J'ai trouvé ça assez cool et du coup ça amène quelque chose un petit peu à Sartre, l'enfer c'est les autres, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de pensif, mais voilà, j'aimais bien un petit peu cet aspect un peu tendu aussi. Moi j'aimais bien parce qu'on voyait toujours le groupe des Russes qui était toujours dans leur coin à jouer aux cartes et qui s'en fichaient des autres. On voyait en fait des mini-histoires, finalement une espèce de micro cause, comme si on regardait une fourmilière, parce que finalement c'est un peu ça, ils sont tous empaquetés les uns sur les autres, et on voit plein de micros histoires qui se racontent et qui montrent un petit peu aussi ce que c'était la vie sur un bateau à l'époque. Enfin, je sais pas à quel point c'était historiquement précis au Bradin,
je pense qu'il a dû chercher une certaine authenticité historique quand même,
le connaissant,
à part le Kraken
et d'autres choses. Mais du coup j'ai vraiment trouvé ça un peu fascinant. Après, sur la structure narrative en elle-même, un peu déçu sur le chapitre bloqué, puisqu'il y a un chapitre bloqué, on l'apprend dès le début, genre ce chapitre, vous n'en saurez plus que si vous réussissez le reste. Ouais. Parce qu'en fait, tout simplement, on devine ce qui se passe. Enfin, moi, personnellement, on sait ce qui s'est passé, très clairement. Enfin, ou on a une idée de ce qui s'est passé. On connaît pas dans le détail ce qui s'est passé, mais on devine ce qui s'est passé et que c'est à ce moment-là où il y a eu une bascule, où vraiment il y a eu des choses un peu graves qui se sont déroulées, qui ont amené à la fin. Et c'est là où je trouve par contre que l'aspect narratif de O'Brien est fort, c'est qu'on commence par la fin.
Oui.
Une fin qui est vraiment déserte parce qu'il n'y a plus personne sur le bateau. Il n'y a quasiment plus personne sur le bateau déjà. Il n'y a plus que le capitaine et quelques autres officiers. Et on comprend qu'il y a du passif là. Il s'est passé quelque chose de grave.
Il y a du lourd avant.
Il y a du lourd avant. Et vous l'avez évoqué pas longtemps, de 3-4 morts juste après. On se retrouve dans la tempête, l'apocalypse. Ouais. On fait oh là là, d'accord. Ah oui, je comprends ce qui s'est passé. Il y a eu du bordel. Et du coup, c'est au-delà peut-être de l'histoire qui est un peu décevante, je veux bien te l'accorder. L'aspect, en fait, la manière de raconter cette histoire de manière extrêmement non linéaire. Avec ces espèces de sauts de puce dans le temps, dans une fresque qui est en 4D finalement, puisqu'on se déplace à la fois dans l'espace et dans le temps, c'est assez novateur, je trouve, cette façon de raconter des histoires.
Peut-être que justement, la petite déception, parce que je pense qu'il y a une vraie satisfaction en termes de gameplay, et c'est une vraie réussite là-dessus, mais peut-être que la petite déception, c'est qu'un gameplay comme ça, c'est aussi l'occasion de raconter une grande, un grand truc. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse le jeu, qui aille plus loin, qui utilise. C'est un excellent système pour mettre en avant une histoire grandiose dans quelque sens que ce soit en fait. Et c'est là où peut-être il y a peut-être un manque.
Je suis d'accord avec ça. Et par ailleurs, je trouve aussi que, comparé à Papers, Please, par exemple, je trouve que ça manque... Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas émotionnellement investi dans le jeu comme j'ai pu l'être dans Papers, Please, parce que dans Papers, Please, il y avait des enjeux moraux très forts. Ouais. Là, il n'y a absolument aucun enjeu moral, puisque tout est passé, tout est derrière. Et au final, j'ai regardé les destins des gens, je me disais, bon, c'est vraiment ballot pour eux, quand même, ce qui s'est passé. Mais je n'étais pas non plus...
Il y en a certains qui meurent de manière horrible, c'est ballot.
Voilà. Mais après, je n'étais pas... bouleversé et je me sentais pas moi-même pris personnellement dans cette affaire quoi.
Mais est-ce qu'il a pas réussi du coup? On est un inspecteur en assurance, est-ce que c'est pas un petit peu ce que devrait ressentir un inspecteur en assurance?
C'est pas faux.
Ce que je veux dire par là, c'est aussi d'un point de vue gameplay, on finira dessus si tu veux. Est-ce que c'est pas un mal nécessaire avec un gameplay pareil, avec une telle liberté d'investigation? Si on avait fait une histoire trop complexe, est-ce qu'on n'aurait pas juste perdu le joueur? C'est avec possible. Une histoire peut-être un peu plus dramatico-simpliste, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à quelque chose de plus simple à résoudre et de plus appréciable au final en tant que jeu? C'est une question que je me pose.
Il faut rappeler quand même qu'il a développé tout seul et que ça reste c'est admirable d'avoir développé ça tout seul. Quand même.
Return of the Obradine, Lucas Pop, 17€ sur PC et Mac. Voilà. Alors on va parler un peu plus rapidement peut-être des deux derniers jeux de cette semaine et on va commencer par un jeu un tout petit peu énervé. Ça s'appelle Lethal League Blaze. Allez, on va se taper dessus à coups de balle. Est-ce du baseball ou autre chose? Non, c'est une balle. C'est une balle et on se tape dessus. Du death ball. Lethal League Blaze, c'est pas le premier de sa génération.
Non, c'est le deuxième, voire le troisième, puisque donc, Team Reptile avait commencé par un prototype en Flash qui trouvait que ça marchait pas mal du tout. Du coup, ils ont décidé de sortir Lethal League à l'époque, c'était en 2014. Donc, c'était un petit jeu en 2D avec le même principe, donc on va le rappeler, qui est de... un jeu de combat de 2 à 4 joueurs dans lequel on ne se frappe pas directement mais on doit frapper une balle qui va prendre la couleur du dernier joueur à l'avoir frappé, qui ensuite pourra plus être touché par celle-ci
mais pourra continuer à la frapper.
Mais elle ce n'est plus une menace pour lui. Mais la balle va se mettre à rebondir un peu dans tous les sens et si elle touche l'autre joueur meurt sur le champ. Donc ça c'était dans le premier Lethal League. Le joueur adverse évidemment peut frapper à son tour la balle qui va prendre sa couleur et inversement, la balle va de plus en plus vite, vous pouvez imaginer le tableau, tout rebondit dans tous les sens, au bout d'un moment ça donne n'importe quoi. voit, il y a des effets à la Dragon Ball Z qui apparaissent, les décors changent, si on est au bord d'une point d'eau, l'eau se met à soulever, voilà, les couleurs changent, à la fin l'écran devient noir, enfin ça devient n'importe quoi. Et ça donne des matchs très punchy, et donc ils ont vu que la formule a bien marché, en plus ils ont bien vendu, et ils ont décidé de retenter le coup avec Lethal League Blaze en 3D cette fois-ci, s'il vous plaît. Alors avec un gameplay 2D toujours, hein, mais avec des jolis graphismes, bien cel-shadés, ouais, comme il faut, c'est assez chouette, avec toujours leur character design qui est assez cool. Le premier Lethal League avait été un petit peu critiqué pour son aspect graphique un peu pixelo-cracra.
Là, on est plus Jet Set Radio.
Alors ça a toujours été un peu Jet Set Radio, on a quand même un crocodile en doudoune, hein, on rappelle, je reprends l'expression de Pipo Mantis qui est vrai, oui c'est un crocodile en doudoune absolument, qui donne il a une cœur métal, parce qu'il est bionique, tu vois, c'est un crocodile bionique, tu vois un peu le genre quoi. Mais oui, il y a un côté très Jet Set Radio, donc urbain pop, mais en même temps on est des rebelles mais au grand cœur, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc qui joue au Lethal League, qui est un sport interdit par le gouvernement, tu peux imaginer un petit peu la chose. Et donc on s'en fout de l'histoire, mais il y a un mode histoire maintenant, donc c'est toujours bon à noter. Et là, donc il y a eu quelques changements. Donc si avant on mourait du premier coup si on se faisait toucher, quelle que soit la vitesse de la balle, ce n'est plus le cas. On a maintenant une barre de vie, et donc plus la balle va vite, plus elle fait des dégâts, ce qui à mon sens, c'est une bonne chose puisque ça évite les espèces d'embroglio du départ où tout le monde se met à sauter sur la balle. Et donc, en fait, parfois, c'est un peu pile ou face. Il y a une personne qui meurt. Bon, c'est un peu décevant. Donc maintenant, si ça arrive, bon, bah, tu perds un peu de vie, quoi. Ouais. C'est pas très grave. T'as perdu l'engagement. Ça arrive. Sachant que ça arrive qu'au début de match. Après, c'est le dernier qui s'est fait tège qui.
Oui, puis ça peut être intéressant de laisser l'autre engager aussi. Vu qu'il va pas lancer la balle très très vite, tu vas pouvoir la renvoyer.
Non, mais par contre, il remplit sa charge de super. Et ça peut être dangereux puisque chaque personnage a donc une capacité spéciale. On est vraiment dans un jeu de combat, hein. Donc au bout de 4 coups mis, on a des super coups qui se lancent. Donc moi, mon croco, il peut manger la balle pour la relâcher quand il veut. Il y en a un autre, il met un double coup, ce qui double d'un seul coup la vitesse de la balle. Il y en a un autre, alors un autre personnage que je joue enferme la balle dans une bulle qui se déplace très lentement, et en fait on peut plus la frapper, il y a que le joueur qui peut la frapper, mais là c'est un peu compliqué, il faut faire des choses spéciales pour la récupérer. Donc ça peut, dans le mind game, ça peut vraiment bien se faire. Et c'est là où j'arrive dans tout ce qui fait la force de l'Etat League, c'est qu'il y a plein de petites subtilités de gameplay, exactement comme dans un jeu de combat, des micro-phases de gameplay qui vont se jouer en fait à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque moment de l'Etat League, il va y avoir un jeu d'esprit entre les deux joueurs, si on joue à deux évidemment, sinon à quatre, c'est un peu plus le bordel, mais ça peut être un petit peu la même logique. Il va y avoir un jeu d'esprit sur lequel on doit se dire, bon, il a frappé la balle, elle va très vite. Au moment où on frappe la balle et qu'elle va très vite, il y a un freeze de quelques secondes qui se met en place. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je frappe la balle ? Oui, mais s'il décide de faire une certaine action, il va mettre un champ de force autour de la balle, ce qui va me paralyser et me tuer sur le champ. Donc on va peut-être pas faire ça. Est-ce que je vais décider de choper la balle ? Oui, mais s'il ne met pas le bouclier de défense, c'est moi qui vais être paralysé et je vais aussi me prendre la balle. Par contre, s'il a mis le bouclier, c'est moi qui lui renvoie dans la gueule. Donc il y a vraiment un jeu de pierre feuille ciseaux qui se met en place, plein de jeux de pierre feuille ciseaux qui se mettent en place très régulièrement, et qui fait qu'ils vont rendre ce jeu vraiment particulièrement plaisant à jouer, parce que même si on n'est pas très bon jeu de combat, qu'on n'est pas capable de faire trois quarts de cercle avant point pour faire l'option select qui va faire que tu vas gagner, c'est vraiment, on est dans du mind game assez pur, ce qui est vraiment sympa en fait. Ce qui fait que on peut apprendre, c'est vraiment du jeu d'esprit, on est moins dépendant, on est moins tributaire de sa capacité à être bon en jeu de combat. Et ça, voilà, ils l'ont très bien compris, ils l'ont bien mis en place, ils ont même rajouté ils ont rajouté cette fameuse shop qui n'existait pas dans le premier Lethal League et qui permet de rajouter une étape en plus dans ce pierre feuille ciseau
il y avait déjà les amortis
aussi les amortis, oui ça existait déjà. Donc les amortis, en fait, il faut savoir que quand la balle va très vite et qu'on la frappe, la balle s'arrête un moment, enfin il y a vraiment un freeze du personnage, mais on peut amortir la balle. Donc si elle va très vite et qu'on amortit la balle va faire un petit rebond en fait, et on va la refrapper, mais là il n'y aura pas de pause, elle va repartir direct. Donc ça peut être super pour casser le rythme et un petit peu surprendre le joueur, et donc qui peut se faire avoir comme ça. Donc on est vraiment face à un jeu qui est exigeant à haut niveau, qui est très marrant à jouer même quand on est un peu nul, qui offre un contenu assez dingo. Donc là ils ont rajouté un système d'objets pour ceux que ça plaît, il y a une espèce de cage en fait au-dessus qui se déplace par moment, et si la balle rentre dedans, ça va octroyer un objet au personnage qui l'a envoyé. varié. Ça peut être des petites fusées, ça peut être des soins, ça peut être. Voilà,
j'ai trouvé aussi le jeu hyper cohérent au niveau design. Enfin, ouais. tout s'incorpore bien. Enfin, on est un peu dans ce style de jeu. Ça fait assez plaisir. C'est le truc est pensé. Ça marche bien. Moi, j'ai découvert. Enfin, j'ai joué un tout petit peu et j'ai su très très vite que j'allais être très très nul. Mais c'est marrant. Enfin, il y a une énergie qui ressort de ça en fait.
Il y a une cohérence graphique qui est aussi soutenue par une cohérence musicale. Il y a des guests, notamment le compositeur Jet Set Radio qui a fait une petite musique, celle qu'on a entendue pour le jeu. Toutes les musiques de toute façon sont assez dingo. Il y a les anciens compositeurs du jeu qui sont revenus évidemment pour créer de nouvelles chansons. C'est vraiment plaisant. C'est-à-dire, artistiquement, il est vraiment chouette. Il met la patate. Il s'adresse à plein de mondes différents. C'est un jeu typique qu'on peut sortir. C'est un Smash Bros alternatif en fait, d'une certaine manière. Ouais. Mais il peut se jouer comme un Street 4. Donc voilà, c'est assez chouette. Ils ont mis des modes en plus aussi. Il y a un mode volleyball qui est sympa. Il y a un mode cible où grosso modo il faut viser la cible adverse, un peu comme, enfin plutôt ça ressemble plutôt à du foot. Mais voilà, il y a plein de contenus à débloquer. Ils ont bien amélioré le online qui était vraiment un point faible du premier Lethal League parce que c'est pas un jeu qui est fait pour jouer en ligne, c'est plutôt un jeu pour jouer entre potes. Et là, honnêtement, j'ai fait pas mal de sessions en ligne où je me suis bien marré, ça laguait pas trop, et même quand ça laguait, ça restait plaisant. Il y a un vrai souci. Il faut vraiment comprendre que c'est pas un Lethal League HD Remix, c'est vraiment Lethal League 2, quoi. C'est vraiment le 1 en amélioré. Je pense que s'il fonctionne comme le 1, en plus, ils vont faire comme le 1 et rajouter des personnages au fur et à mesure que ça va avancer, voire pourquoi pas un DLC, ils le mériteraient s'ils rajoutent assez de contenu. Voilà, je conseille à tous ceux qui aiment bien mettre un petit peu d'énergie et de temps dans l'apprentissage d'un jeu. S'ils ont des potes pour faire ça avec eux, ça peut être sympa. Et donc ça s'appelle Lethal League Blaze, c'est sur PC, ça sort au printemps sur console Xbox One, PS4, Switch.
20 euros sur Steam. On va terminer rapidement parce que j'y ai joué cet été, j'en ai pas parlé depuis, et il est sorti il y a quelques semaines sur Switch, c'est 7 Billion Humans. You want jobs? You will have jobs. They will be the best jaws. Huge. Believe me, you have never seen so many jaws.
Where can we get these jaws?
Just show up on Monday. The machines have created enough jobs for every single person on the planet and the whole family to enjoy.
I have a PhD in medieval French literature.
Even the most useless skills can be put to work in the new office building visible from space. Congratulations, all 7 billion humans on the planet.
Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais il faut quand même parler du scénario, parce que c'est pas du tout un jeu à scénario, mais il y a un intérêt quand même. Donc, aux commandes, c'est Tomorrow Corporation. Le pitch de 7 Billion Humans, c'est que les machines, elles sont hyper fortes, et donc tout est robotisé, donc il n'y a plus de boulot. Hein. Tout le monde, les machines font tout le travail à notre place. Sujet de société, hein, on en entend parler avec l'intelligence artificielle, etc. Mais là, c'est une réalité, et en fait, c'est déprimant. Les gens, ils ont plus de boulot, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Donc, pour ça, les machines ont réinventé un travail pour les humains, parce que les humains s'emmerdent autrement, s'ils n'ont pas de travail. Et donc là, les machines ont rendu tous les humains heureux, parce que les 7 milliards de personnes de la planète ont toutes un travail, et donc sont toutes heureuses. Mais alors après, quel travail? C'est là où, en fait, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il va falloir programmer des humains pour qu'ils effectuent des tâches ultra répétitives et sans aucun intérêt. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de 7 Billion Humans, c'est un jeu d'algorithmique. Voilà, c'est un jeu de pure algorithmique, c'est-à-dire nous avons une pièce, nous avons des gens, nous avons des objets, et il va falloir faire des choses. Alors, les choses, ça va être mettre des impressions de photocopieuse dans une broyeuse. On prend ce qui sort d'une photocopieuse, on l'amène à la broyeuse, on broie, on reprend. Ça va être de porter des cubes numérotés et de les placer dans l'ordre croissant. Hein, voilà. Et donc, on va avoir, par exemple, une salle avec 7 personnes qui ont en face d'elles, chacune à un cube avec un nombre au hasard. Au moment où on va lancer le programme, chaque cube va avoir une valeur, il va falloir les trier dans l'ordre. Par exemple, c'est ça. Et donc, on a des instructions. Et la particularité, c'est que les instructions vont s'effectuer en parallèle pour les 7 personnes. Ça va être un seul programme appliqué aux 7 personnes. Donc là, dans le cas présent, ça va être prendre le cube qui est en face de soi. Donc, on a une instruction pick-up, la case qui est devant soi. Et puis, on va comparer. Chaque personne va comparer la valeur avec son voisin de gauche. Par exemple, avec son voisin de gauche, si on classe de gauche à droite. Et si la valeur du cube de son cube est supérieur à celui, est inférieur à celui de son voisin de gauche, et ben on va switcher les cubes, etc. Et puis donc là c'est un algorithme de classement, de tri assez simple à mettre en place, et puis ça va se répéter. Et à la fin, on aura les cubes qui seront dans l'ordre. Ça, c'est un exemple qui arrive assez tard, enfin, dans les niveaux 20 à 30. Mais il y a plein de situations comme ça. Ça va être de faire un damier avec des cubes, avec des impressions. Ça va être tout ça. Et alors, au fur et à mesure, on va avoir des nouvelles instructions. Il va y avoir la capacité de mémoriser des lieux, d'assigner des valeurs à des objets, etc. Et il va falloir que tous ces petits bonhommes, ils jouent entre eux, ils s'exécutent le même programme. Évidemment, avec à chaque niveau, deux contraintes, c'est faire le programme avec le moins d'instructions possible et faire le programme qui s'exécute le plus vite possible, sachant que les deux ne sont pas forcément compatibles. C'est-à-dire, il va falloir peut-être faire deux programmes pour une fois le programme le plus court, une fois le programme le plus efficace.
Ce qui fait que tu as envie parfois de refaire des niveaux, j'imagine, pour faire d'une manière plus efficace ou plus rapide.
Alors, petit disclaimer personnel, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'ai commencé, mon premier boulot, c'était ça, avant de passer dans ce milieu...
Beaucoup mieux payé du journalisme.
Oui, bien sûr. Donc, j'ai une certaine base algorithmique, il y a des fois, pour trouver les programmes à faire en 6 lignes de code, et t'es là, mais j'en ai 9, et le mien il est hyper optimisé, je suis désolé. Et effectivement, il faut se creuser la tête, et c'est pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est une introduction à l'algorithmique. C'est vraiment une sorte de grand tutoriel à l'algorithmique. Qu'est-ce que l'algorithmique? Qu'est-ce que les boucles? Qu'est-ce que les conditions? Qu'est-ce que sont l'affectation d'une valeur? Au final, il y a une centaine de niveaux. À la fin des 100 niveaux, on a une vraie formation en algorithmique et de manière ultra ludique. C'est très, très drôle. L'univers est très drôle. C'est plutôt bien foutu. Il y a même quelques petites scènes cinématiques à quelques endroits bien choisis.
Même il y a un humour sur l'univers quand même, je trouve.
Ouais.
Parce que finalement, on est en train de faire à l'envers, quoi. On transforme des humains en robots. Finalement.
Exactement. Et ça tient le long des niveaux, cette logique inversée. Et voilà, c'est un vrai. L'interface aussi est très bien pensée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à coder tout ça. On, c'est juste du drag and drop de conditions et de choses comme ça. Tout se fait à la souris ou au doigt sur Switch. Enfin, tu vois, en tout cas, c'est hyper simple et c'est très. C'est très gratifiant aussi. Enfin, quand on réussit les expériences, quand on réussit les défis et tout ça, on est plutôt content. Et puis on voit ces petits bonhommes. On peut accélérer évidemment parce que des fois le processus sont très longs et faire toutes les tâches. Et c'est super gratifiant. En tout cas, c'est très très bien foutu.
Ça me rappelle ce jeu là, mais j'ai oublié le nom. J'arrive pas à le retrouver. Où on doit recréer des molécules avec des. On a différents objets, différents bras qui vont déplacer des atomes et à la fin on doit recréer une forme.
Mais
tout automatisé et je sais plus le nom de ce jeu et ça
mais c'est récent en plus.
C'est très récent.
C'est
cet été, je crois.
Oui, c'est cet été. Je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais j'y avais joué.
Mais c'est un peu le même genre, une
sorte de truc dans un univers
steampunk,
oui, etc. Oui, il y a de ça, mais ouais. Avec. Là, c'était un peu dérivé, ce truc. Là, on est vraiment dans l'algorithmique plus pur avec des on fait une boucle, on fait un truc, on est vraiment dans. Mais c'est un vrai plaisir pour le
coup. Donc, si je comprends bien, c'est en fait concrètement une machine qui t'apprend le métier d'expert en algorithme, quoi.
C'est ça.
C'est cool.
En gros.
C'est un peu une mise en abîme.
C'est complètement. Non, mais pour le coup, c'est vraiment.
Je suis en train de comprendre. En fait,
t'es un journaliste qui va devenir ingénieur en informatique.
Ouais,
c'est l'inverse.
Ouais, c'est bien.
Moi, ça m'a rappelé les Wario Do It Yourself.
Oui, bien sûr.
Wario Do It Yourself qui, là, pour le coup, même allait plus loin, c'est-à-dire apprenait la programmation orientée objet d'une manière absolument brillante. Et c'est. J'étais. Bon, ils ont fait le Super Mario Maker, mais je trouvais que le Wario Do It Yourself avait un côté encore plus. Boîte à outils.
C'est pas tout à fait la même chose, parce que de toute façon, Mario Maker est très axé platformer, mais il me semblait que le do-it-yourself allait assez loin.
Il allait super loin dans la programmation. Voilà, bref, 7 Billion Humans de Tomorrow Corporation. Corporation. En tout cas, sur PC, c'est 12,50€. Je sais pas, sur Switch, peut-être une vingtaine d'euros.
En général, les jeux Switch sont un peu plus chers. Ouais,
ouais, voilà, c'est ça. Et ben, c'est fini pour ce programme indé, cette grande vague de jeux indé. C'était cool. C'est, ouais, ça, permet de, varier. Merci à tous les deux. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas. Oh là là, je vois Franck sans panique.
Et toi, alors,
on va commencer par Corentin. Et Corentin, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi?
Je suis allé voir Le Grand Bain. Le Grand Bain, donc le film de Gilles Lelouch avec un casting assez dingo. Donc il y a Mathieu Amalric, il y a Poulvord, il y a Canet, il y a Catherine.
Je crois que ça a été déjà le cas la semaine dernière, figure-toi.
Ah mince, bah, tant pis pour moi.
Mais non, mais vas-y, continue.
Il y a Virginie Efira aussi. Je voulais juste dire que c'était super et qu'il fallait aller voir Le Grand Bain parce qu'on a vraiment une comédie française. Voilà, on se moque souvent des comédies françaises qui sont un peu. Comment dire?
Nul.
Quand elles sont pas racistes ou homophobes ou ce genre de choses, elles sont pas très bien écrites. Là, on a quelque chose de très juste, touchant, sensible, qui va pas que dans dans la comédie, justement, qui va aussi toucher des aspects un peu plus sombres, qui va vraiment chercher un petit peu la médiocrité chez les hommes et les femmes d'ailleurs, et qui finalement essaie de lutter contre ça et qui essaie de s'en sortir aussi et qui n'y arrive pas toujours, mais grâce à cette espèce de sanctuaire qu'est cette équipe de natation synchronisée masculine, vont un peu tous se retrouver et vont faire finalement un club de dépressifs anonymes ensemble. Et ça donne quelque chose de très juste, très touchant et qui peut même être inspirant par moments sur... ça donne envie de se réfléchir sur soi-même aussi, je trouve, tout en riant bien, en ayant des personnages haut en couleur. Moi, je retiens surtout Philippe Catherine. Philippe Catherine, ouais, qui est extraordinaire dans ce film. Voilà, tu sens qu'il a pas eu de grand amour dans sa vie, le pauvre, mais qu'il est d'une gentillesse à tout casser, mais qui est aussi une véritable, voilà, c'est un comment on appelle ça? Devant les portes, c'est un paillasson, voilà, ouais, pour tous ses collègues. Mais voilà, ils sont tous très bien, ces acteurs, finalement. Il y a une espèce d'alchimie qui marche très bien. Donc, je recommande Le Grand Bain. C'est pas tous les jours qu'on a une comédie française aussi réussie. Une comédie amère.
C'est pas tous les jours qu'on a une double promo dans Silence on joue, voilà, dans le qu'on joue. Désolé. Non, très bien. France.
Bah, c'est pas tous les jours qu'on a une comédie française si réussie. Et pourtant, la semaine suivante, ou deux semaines, enfin, bref, En Liberté de Pierre Salvadori, voilà, qui est sorti la semaine dernière et que je suis allé voir et que j'ai trouvé meilleur que Le Grand Bain, un genre en fait très différent,
ouais, ça,
c'est un genre très différent, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, je sais pas ce qui se passe là.
Bah,
Yannick Larson qui arrive, on va se calmer.
Voilà, donc avec le duo Pio Marmaille, Adèle Haenel, qui est vraiment formidable dans ce film, avec un homme donc, qui a passé 8 ans en prison pour un crime qu'il a pas commis, et qui du coup en sortant décide que puisqu'il a passé 8 ans en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, il va faire plein de choses qui mériteraient de l'envoyer en prison. Et donc, du coup, le film joue de ça avec Adèle Haenel, qui est flic et dont le mari flic, Vincent Elbaz, s'avère en fait un gros ripoux. Donc, du coup, elle, son côté, elle tombe de très haut au début du film en découvrant ça. Bref. Donc, du coup, ça crée des situations autour de ça. Et c'est vraiment très, très bien écrit, très, très fin, très drôle. Et voilà, je conseille vivement.
Deux comédies françaises.
Non, j'avoue. Mais c'est vrai que là,
Camus va pas supporter. Hein.
c'est son fond de commerce, les mauvaises comédies françaises. Donc.
Pour ma part, je regarde la saison 4 de Better Call Saul, donc sur Netflix. La saison où il se passe le plus rien de l'histoire des saisons de séries sur Netflix. Elle est assez hallucinante. Moi, j'adore parce que on aime bien les personnages, on aime bien l'univers. Ça, voilà, c'est l'univers de Breaking Bad. Ça boucle encore plus que les autres saisons avec Breaking Bad. On sent que Breaking Bad se rapproche, et tout ça. Mais alors, il ne se passe rien.
J'ai l'impression que c'est un peu une habitude dans les séries justement liées à Breaking Bad, c'est qu'il y a toujours un moment donné de vide.
Ouais, mais on est dans ce moment de vide alors qu'il y avait une saison 3 qui est extraordinaire entre les relations entre Jimmy et son frère Chuck avec le procès, les trucs. Enfin, cette saison 3 était géniale. Enfin, et là, c'est bien aussi, hein, mais il se passe. T'es là avec les épisodes, le générique de fin arrive, c'est. Il s'est passé quoi? Non, rien. Bon, d'accord. Bon, bah, épisode suivant. Mais vachement bien. Voilà, toujours ce personnage incroyable de Jimmy. Et voilà. Bah, c'est fini, donc, cette semaine. Hein. À la réalisation, c'était Quentin Bresson. Et merci aux équipes de Binge Audio, hein, encore, de nous recevoir. C'est très cool. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour être plus précis, sur les antennes de Libération de Binge Audio et des internets. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.